La vérité est que je ne peux pas vous guérir. Votre pasteur ne peut pas vous guérir. Par contre, je peux être un instrument par lequel la guérison de Dieu passe. Votre pasteur peut être un instrument. Vous pouvez être un instrument que Dieu utilisera, mais vous devez regarder au-delà de l'instrument et vous tourner vers celui d'où vient la guérison. Elle vient de Dieu. Nous devons garder les yeux sur le Seigneur. Je pense que les gens se trompent parfois. Ils se tournent vers l'évangéliste ou vers telle ou telle personne qui va apporter la guérison. Non, mes amis, la guérison vient du Seigneur.
Bonjour, je suis Bill Esconley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Bonjour, je m'appelle Bailey Esconley et j'ai des choses à partager avec vous. Nous nous penchons sur des questions très très intéressantes que pose la Bible. Non pas que nous posions des questions sur la Bible, mais des questions qui se trouvent dans la Bible elle-même, et en particulier des questions qui ont trait au thème de la guérison. C'est très important. Si vous observez la vie de Jésus, vous verrez qu'il a passé une bonne partie de son temps à soigner et à guérir les malades. En fait, si vous lisez les évangiles, vous avez toujours l'impression qu'il vient de guérir quelqu'un, qu'il est en train de guérir quelqu'un, ou qu'il va guérir quelqu'un. Il est dit ceci dans Jean 9:1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Voilà la question. « Seigneur, qui a péché, cet homme a-t-il péché ? Ou bien est-ce le péché de sa famille, de ses parents, qui a fait qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyer ». Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Jésus a guéri l'homme. Il ne lui a pas simplement restauré la vue. L'homme n'avait jamais eu la vue. Il n'y avait rien à restaurer. Il s'agissait peut-être d'un miracle créatif, si l'on peut dire. Cet homme n'avait jamais vu le soleil. Il entendait les oiseaux chanter, mais il n'en avait jamais vu. Il n'avait jamais vu le visage de sa mère. Il n'avait jamais vu le visage de ses frères et sœurs, s'il en avait. Il n'avait jamais vu le magnifique temple. Il n'avait jamais rien vu. Et Jésus lui a rendu la vue. C'est assez intéressant parce que lorsque les disciples l'ont vu, ils ont réalisé qu'il était né aveugle. Ils ont posé cette question, « Qui a péché ? Cet homme a-t-il péché ou ses parents ont-ils péché pour qu'il soit né aveugle ?» Je ne sais pas comment ils peuvent penser qu'il a pu pécher s'il est né aveugle. Beaucoup de gens pensent que si quelque chose de mal vous est arrivé, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Si vous êtes malade, c'est parce que vous avez péché. Mes amis, la maladie n'est pas toujours le résultat du péché. Parfois, nous constatons que c'est le cas. Le péché peut ouvrir la porte à la maladie. Il y a un homme que Jésus a guéri et à qui il a dit « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Ce qui indique que le péché a peut-être ouvert la porte au départ. Cela pourrait certainement ouvrir la porte à quelque chose de pire que la maladie précédente qu'il avait. Nous comprenons donc cela. En lisant la Bible, nous comprenons que, jusqu'à ce que le péché entre dans le monde, il n'y avait pas de maladie. La Bible dit dans le livre des Romains que la mort est entrée par le péché. Or, la maladie n'est qu'un premier signe de la mortalité. Une fois que Dieu aura créé un nouveau ciel et une nouvelle terre, le diable ne sera plus là et le péché ne sera plus là. Il n'y aura plus de maladie. Le péché et la maladie se rejoignent en quelque sorte dans le sens où ils sont entrés dans ce monde par la transgression d'Adam. Mais il est faux de supposer ou même d'accuser quelqu'un d'avoir péché parce qu'il est malade. Certes, comme je viens de le dire, cela peut être le résultat d'un péché, mais pas nécessairement. Lorsqu'ils ont posé cette question, deux ou trois choses m'ont sauté aux yeux. Il est dit que Jésus a vu un homme. Les disciples ont juste vu une raison d'avoir un débat théologique. Il était en quelque sorte le sujet de l'expérience. Ils ne le considéraient pas vraiment comme un homme, mais lorsque Jésus l'a vu, il a vu un homme. Il a vu quelqu'un créé à l'image de Dieu. Il a vu quelqu'un qui avait une valeur intrinsèque, qui valait plus que la terre créée. L'Écriture dit, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Mes amis, une âme humaine vaut plus que le monde entier. Jésus voit un homme, et leur question est, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répond, ni cet homme ni ses parents n'ont péché. Pensez-y. Jésus a dit, ni cet homme ni ses parents n'ont péché. Mettons donc fin à vos débats théologiques, à vos suppositions et à votre volonté de rejeter la faute sur quelqu'un. Cet homme n'a pas péché, ni ses parents non plus. Jésus poursuit en disant, « Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » En lisant cela, du moins dans la Bible anglaise, je ne suis pas sûr de la langue dans laquelle vous écoutez ceci, mais la ponctuation donne l'impression que Jésus dit, « Il n'a pas péché et ses parents n'ont pas péché non plus. » Mais Dieu l'a rendu aveugle afin qu'il puisse être glorifié en le guérissant. Les œuvres de Dieu doivent être révélées en lui. C'est ce que j'entends souvent de la part des gens. « Je suis malade pour la gloire de Dieu. » Eh bien, si c'est vrai, alors il va falloir que vous soyez guéri parce que vous ne pouvez pas vous arrêter de lire là. L'homme a été guéri par le Seigneur, les œuvres de Dieu n'ont été manifestées que lorsqu'il a été guéri. Donc, si c'est votre cas, vous devriez vous attendre à être guéri. Mais je veux juste vous faire part de quelque chose. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Nouveau Testament est écrit en lettres grecques majuscules. Dans les manuscrits originaux, il n'y avait pas de séparation des versets ni de ponctuation. La séparation des versets et la ponctuation ont été ajoutées par les traducteurs pour plus de clarté, et heureusement qu'ils l'ont fait. Les mots sont inspirés par Dieu. Les mots sont inspirés par Dieu. Les mots sont insufflés par Dieu. Les mots sont exacts. La séparation des versets et la séparation des chapitres ne sont pas toujours exactes. Parfois, les traducteurs se sont trompés. Ils ont fait une coupure de chapitre lorsque l'histoire s'enchaînait d'un chapitre à l'autre. Vous pouvez voir que ce qui s'est passé dans le chapitre suivant est directement lié à ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Parfois, ils se trompent dans la séparation des versets et parfois dans la ponctuation. Mais cela dépend des traducteurs. Écoutez donc cette lecture sans la ponctuation particulière que l'on trouve, en tout cas, dans la plupart des Bibles anglaises. Ils dirent, « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour que cet homme soit né aveugle ?» Jésus dit, « Ni cet homme ni ses parents n'ont péché, mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il faut que je fasse, pendant le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Jésus dit donc, « Cet homme n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché, mais pour que les œuvres de Dieu se révèlent en lui, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. S'il doit être guéri, c'est à moi de le faire, je suis l'instrument de Dieu sur la terre. » Il a dit, « Je dois travailler pendant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne peut travailler. » En réalité, si vous connaissez l'ordre chronologique, cela se situe vers la fin du ministère du Christ. C'était seulement 6 mois avant qu'il ne soit crucifié. Encore une fois, ce n'est ni le péché de cet homme, ni celui de ses parents, mais pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour, pendant qu'il est encore temps. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela a dû être vraiment bon à entendre pour l'aveugle. Je suis la lumière du monde. Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle. Quelle histoire! Certaines personnes débattent tandis que d'autres souffrent. Jésus a guéri l'homme. Ne soyez pas comme ceux qui se lancent dans de grands débats théologiques. Il y a des gens qui font cela. Ils veulent juste débattre de ceci et ils veulent débattre de cela. Jésus a apporté la guérison. C'est ce qui est important. C'est le cœur de Dieu. Dieu veut relever, délivrer et aider ceux qui souffrent. Il ne veut pas que nous nous contentions de mener nos débats religieux à leur sujet. Nous devons maintenant sortir et accomplir les œuvres de celui qui nous a envoyés. Jésus a dit dans Marc 16, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Nous sommes désormais les instruments de Dieu sur la terre. Christ veut nous utiliser pour apporter la guérison, la bénédiction et la restauration aux gens. Nous passons donc de cette question à une autre. Celle-ci est intéressante, elle se trouve dans 2 Rois 5. C'est l'histoire de Naaman le Syrien. C'était un général célèbre en Syrie. Il avait gagné de nombreuses campagnes, c'était un ami du roi, mais il avait la lèpre. Un jour, une petite servante qui se trouvait dans sa maison, elle était en fait une Israélite capturée, dit à la femme de Naaman, « Oh, si mon maître était en Israël, il y a là-bas un prophète qui pourrait le guérir. » La nouvelle a été rapportée à Naaman. Il est allé trouver le roi et lui a dit, « Ma petite servante dit qu'il y a en Israël un prophète qui peut me guérir. » Le roi le charge d'argent, d'or et de vêtements. Il l'envoie avec une lettre au roi d'Israël. Nous reprendrons l'histoire dans une minute à peu près à cet endroit. Naaman est venu chercher la guérison et je voudrais juste faire un commentaire à ce sujet. Il aurait pu mettre un terme à l'histoire. Il aurait pu dire « Qui est cette petite servante, cette petite adolescente? Qu'est-ce qu'elle y connaît? C'est stupide. » Cela aurait mis fin à tout cela. Il aurait pu dire « Je ne crois pas à ce genre de choses. » Cela aurait mis fin à l'affaire. Il aurait pu dire « Israël est notre ennemi. J'ai mené des campagnes contre eux. Je me suis battu contre eux. » Même s'il y avait un prophète que Dieu utilisait pour la guérison, ils ne m'aideront certainement pas. Je n'irai pas. Il aurait pu se dire, le pays est grand, comment vais-je trouver cet homme? Il aurait pu tout arrêter. Je pense que lorsqu'il s'agit de guérison, nous devons vraiment la poursuivre. Il y a tellement de raisons que nous pouvons invoquer pour tout arrêter. Je veux vous encourager et vous mettre au défi. Vous dites peut-être, « Pasteur, ne me donnez pas de faux espoirs. Je veux vous donner de l'espoir. » La Bible dit dans Hébreux 11, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une traduction anglaise dit, « Or, la foi donne corps à nos espérances. Sans espérance, la foi est sans espoir. Sans espérance, la foi n'a rien à concrétiser. » Oui, je veux vous faire espérer. Pensez à Naaman. Il a entrepris un long voyage. Il a cherché et cherché. La moindre chose qu'il entendait, il s'y accrochait. Comme le raconte l'histoire, il a évidemment fini par être guéri. Le verset 5 dit ceci. Le roi de Syrie dit, « Vas-y, il parle à Naaman. Rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. 300 kilos d'argent et tout un tas d'or. Il prend tous ses vêtements, c'est pour payer sa guérison. Au fil de l'histoire, on découvre qu'on ne peut pas payer pour une guérison. Après que le prophète lui a dit « Va te tremper cette fois dans le Jourdain », il en sort et sa chair est entièrement comme celle d'un enfant, toute neuve, c'est incroyable. Il essaie de payer pour la guérison. Le prophète refuse. On ne peut pas payer pour une guérison. C'est un don de Dieu. Mais verset 6, écoutez ceci. « Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. Bien sûr, le prophète en entend parler et dit, « Bon, envoie-le-moi. » Et comme je l'ai dit, au cours de l'histoire, Naaman le Syrien est guéri de sa lèpre. Mais la question que pose le roi d'Israël est la suivante. « Suis-je Dieu pour tuer et faire vivre que cet homme m'envoie un homme pour le guérir de sa lèpre ? Suis-je Dieu ? Puis-je guérir ?» Je pense que c'est une bonne question. Lorsque Naaman est venu voir Élisée, le prophète, ce dernier n'est même pas sorti pour le saluer. Mais Élisée a mis Naaman en contact avec le Dieu vivant. Permettez-moi de lire le verset suivant. Le verset 15 dit « Naaman retourna vers l'homme de Dieu, c'est après avoir été guéri, avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Mais le prophète n'accepte pas. Élisée met Naaman en contact avec celui qui pouvait le guérir. Il lui présente le Dieu vivant. Le roi d'Israël dit « Regarde, suis-je Dieu ? Eh bien non. La vérité est que je ne peux pas vous guérir. Votre pasteur ne peut pas vous guérir. Par contre, je peux être un instrument par lequel la guérison de Dieu s'écoule. Votre pasteur peut être un instrument. Vous pouvez être un instrument que Dieu utilisera. Mais vous devez regarder au-delà de l'instrument et vous tourner vers celui d'où vient la guérison. Elle vient de Dieu. Nous devons garder les yeux sur le Seigneur. Je pense que les gens se trompent parfois. Ils se tournent vers l'évangéliste ou vers telle ou telle personne qui va apporter la guérison. Non, mes amis, la guérison vient du Seigneur. Le roi d'Israël a posé une bonne question. Il a dit « Suis-je Dieu ?» Ce n'est pas moi qui tue et qui donne la vie. Je ne peux pas guérir cet homme. Non, mais il y a un Dieu au ciel qui le peut. Élisée a mis Naaman en contact avec lui. Voici un extrait du livre des Actes des Apôtres. À la belle porte du temple, un homme a été guéri. Tout le monde s'est rassemblé. Il s'affole. Voici comment se déroule l'histoire. Actes 3, 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait a couru vers eux au portique appelé Portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Bonne question. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur, Jésus. Pierre dit, non, écoutez, ce n'était pas nous, ce n'était pas notre pouvoir, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a glorifié son serviteur, Jésus, à travers ceci. Nous devons garder les yeux sur Dieu et sur le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu utilise des instruments humains. Il donne à certains le don de guérison. Il a ordonné à tous les croyants d'imposer les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Mais ce pouvoir ne vient pas de nous. Pierre a dit, « Regardez, ce n'est pas notre pouvoir, ce n'est pas notre piété qui a fait marcher cet homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère. Non, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a glorifié son Fils, Jésus. » Il continue dans le quatrième chapitre, et il dit ceci dans le chapitre suivant. Ils sont appelés à se justifier pour ce qui s'est passé. Acte 4, 8 dit, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, ou par lequel nous devons être guéris. C'est le même mot grec qui est traduit par « sauvé » et « guéri », et le sujet en question était la guérison. Le nom de Jésus a été donné aux hommes, et par ce nom, nous pouvons être guéris. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que c'est Dieu qui guérit. Nous nous trompons lorsque nous nous tournons vers les hommes. Je pense à l'exaspération du roi, lorsqu'il a dit « Le roi de Syrie ne cherche qu'à se quereller. Je ne peux pas guérir cet homme. » Et c'est la vérité. Nous ne le pouvons pas. Je me souviens d'un homme qui fréquentait notre église. C'était un homme très gentil. Je me souviens d'un jour où je suis arrivé à l'église et où je me dirigeais vers mon bureau. Nous avions un petit patio qui était surélevé entre deux parties du bâtiment, une partie de l'église des enfants et l'endroit où se trouvait mon bureau et celui de la secrétaire. Il m'attend à la porte et il est ivre. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Comment ça va ?» Il est tombé à genoux, m'a pris par les jambes et s'est mis à sangloter. Il m'a supplié de le guérir. Il m'a dit « S'il vous plaît, guérissez-moi, s'il vous plaît, guérissez-moi, s'il vous plaît, guérissez-moi. » Je l'ai pris par les épaules, je l'ai soulevé et je lui ai dit « Écoute, ce n'est pas moi qui guéris. » J'ai dit « Jésus peut te restaurer, il peut te délivrer de l'alcoolisme, il peut tout faire, mais il faut que tu mettes tes yeux sur lui. » C'était vraiment un moment très inconfortable pour moi. En fait, rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. Ce type s'accroche à mes jambes et me supplie de le guérir. Mais je devais lui dire la vérité, je ne suis pas celui qui guérit. Jésus est celui qui guérit. Et j'ai fait de mon mieux pour le mettre en contact avec le Seigneur. Mais il a cessé de venir à l'église. J'ai prié pour lui et il a cessé de venir peu après. Honnêtement, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais je veux vous dire qu'il y a un Dieu au ciel qui connaît votre nom. Il y a un Dieu au ciel qui peut vous guérir, qui peut vous restaurer, qui peut vous apporter la plénitude et qui peut apporter la plénitude à votre famille. Si vous avez regardé vers un homme, je suis encouragé si vous avez été béni par notre émission. Nous recevons des lettres, des emails et d'autres choses tout le temps. Nous aimons avoir des nouvelles des gens. Nous aimons entendre les histoires de personnes qui ont trouvé Christ grâce à l'émission, dont le mariage a été rétabli ou qui ont vécu d'autres choses. Nous en sommes très reconnaissants. Mais vous devez garder les yeux fixés sur Jésus. Notre travail consiste à vous mettre en contact avec lui. Mon travail consiste à vous amener à fixer vos yeux sur Jésus-Christ, parce qu'il est le Sauveur. Il est celui qui guérit. Il est celui qui peut vous restaurer. Je suis sûr que quelqu'un me regarde en ce moment qui est désespéré. Vous avez désespérément besoin d'aide dans votre vie. Vous êtes peut-être une personne qui a connu des échecs successifs dans ses relations. Vous commencez quelque chose et puis vous vous dites « quelque chose ne va pas avec moi ». Peut-être même que des pensées suicidaires se sont glissées dans votre esprit. Écoutez-moi, vous avez de la valeur. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous tous. Nous sommes tous des œuvres en devenir. Dieu a de bonnes choses pour vous. Vous devez vous tourner vers lui. Fixez vos yeux sur lui. Il peut vous aider. Il peut apporter la paix à votre esprit. Il peut vous donner une direction. Ce dont vous avez le plus besoin en ce moment, c'est de plénitude intérieure. C'est dans votre relation avec Christ que vous trouverez la plénitude. Un mariage, une relation entre un homme et une femme, pour avoir une bonne relation, il faut deux personnes qui vivent cette plénitude. Certaines personnes se disent « Je suis tellement mal en point, j'ai juste besoin de trouver quelqu'un qui va me reconstruire. » Non, vous allez trouver quelqu'un qui est à mi-chemin, et vous êtes à mi-chemin. Deux moitiés ne font pas un tout. Si vous réunissez deux moitiés, elles sont toujours deux moitiés et vous aurez toutes sortes de problèmes. Non, vous devenez une personne épanouie en Christ. C'est en lui que vous trouverez votre assurance. Il n'y a rien de mal à vouloir se marier, il n'y a rien de mal à vouloir de la compagnie. Mais vous devez décider de trouver la plénitude, de trouver votre assurance et votre plénitude en Christ. Alors, quand Dieu vous amènera dans une relation, vous aurez beaucoup plus à donner de votre côté et vous ne chercherez pas simplement quelqu'un d'autre pour combler les lacunes. Non, laissez Dieu combler les lacunes. Vous me regardez peut-être en ce moment et vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. J'ai donné ma vie à Christ dans une mission de rue, remplie de sans-abri, de marginaux et de toxicomanes. À l'époque, j'avais de gros problèmes de toxicomanie. C'était il y a 47 ans. J'ai entendu l'Évangile prêché, j'étais le seul à répondre. Ce soir-là, Dieu s'est emparé de ma vie et m'a changé. Comme je l'ai dit, je suis évidemment encore un travail en cours, mais il m'a reconstruit de l'intérieur. Mon esprit, le vrai moi, est né de nouveau. Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Si vous êtes malade dans votre corps en ce moment, écoutez, je veux vous encourager. Entrez en contact avec le Dieu de la Bible. Lisez les histoires. Elles feront naître la foi dans votre cœur. Laissez Dieu vous parler à travers sa parole. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Jésus a dit que tout est possible à Dieu. Il a également dit que tout est possible à celui qui croit. Eh bien, mes amis, votre croyance, votre foi prend vie lorsque vous passez du temps dans sa parole. Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Une traduction dit « Ainsi la foi prend vie de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. » Je pourrais continuer encore longtemps, mais je veux juste que vous soyez encouragés. Vous devez savoir que Dieu vous voit. Au milieu de votre dilemme, au milieu de votre situation, même si vous vous êtes infligé cela et avez provoqué cela vous-même, Dieu vous aime toujours et il veut vous aider. Si vous nous regardez en ce moment et que vous n'avez jamais correspondu avec nous, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Si nous avons été une bénédiction pour vous, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Je tiens à remercier ceux d'entre vous qui nous soutiennent dans la prière et qui nous soutiennent financièrement. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage à prier à ce sujet. Aidez-nous à faire connaître ces programmes à d'autres personnes dans le monde. Nous le faisons en plusieurs langues, partout dans le monde. D'après la correspondance et les réactions que nous recevons, nous constatons que des personnes sont aidées par la parole de Dieu. Et vous pouvez y contribuer. Alors à bientôt, je prie pour que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.